Ouais, Robert Blondin.
Ah, bonjour, Alexis Wawanodwat.
On reçoit comme première invitée Adrienne Jérôme. On a préenregistré l'entrevue parce que Mme Jérôme, la chef de l'Axmo, est très occupée. Donc, voici l'entrevue. Quoi, Adrienne?
Bonjour, Alexis.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien. Nomades.
Kitty Miigwetch, vous êtes avec nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de développement dans la communauté Anishinaabe de Lac-Simon. On a vu dernièrement un article dans l'actualité qui parlait de comment vous avez instauré la langue Anishinaabe dans vos écoles primaires et secondaires. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce projet-là.
Ben, c'est un projet que... Le projet de la langue Anishinaabe, ça date de plus de 25 ans. On avait déjà monté des lexiques, puis là, mais ça continue. On n'avait pas beaucoup de profs avant. On n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Là, les fonds de l'éducation n'étaient pas comme ajustés, mais aujourd'hui, on se permet avec d'autres programmes d'installer la langue Anishinaabe. Puis la culture Anishinaabe aussi. Puis les trois premières années, on avait 16 professeurs en langue. Puis c'est tout démonté du matériel didactique, des programmes d'enseignement, parce qu'il y a le programme de pré-maternelle, maternelle, première année. Wow. C'est tout comme un chiffre. Il ne faut pas que les enfants s'ennuient là-dedans dans la langue.
C'est pas fini.
On est en train de faire traduire les jeux comme Serpent et Échelle en langue algonquine. T'sais, on est rendu dans les jeux. Il y a des comptines, il y a des chansons. C'est par là qu'on essaie de revitaliser la langue Anishinaabe. Puis de plus en plus, les jeunes. Les jeunes essaient de le parler, c'est tout les mots-clés, mais ça va venir dans les années à venir que les jeunes vont parler la langue Anishinaabe.
Parce que c'est quand même un phénomène assez triste, hein. On voit beaucoup ça chez les Anishinaabe ou dans d'autres nations, que des jeunes adolescents ou des jeunes enfants ne comprennent pas nécessairement leurs grands-parents parce qu'ils ne parlent pas la même langue.
Ben c'est ça, parce qu'il y a des parents même aujourd'hui là, que... Ils ne comprennent pas leur enfant quand ils parlent Anishinaabe. Et ça commence à la maison. Il y en a qui sont chanceux de le parler parce que la première langue à la maison, c'est la langue algonquine.
Oui, l'Anishinaabe Mouin. Est-ce que tu vois déjà des différences, Adrienne, par rapport à quand ça a commencé avec les jeunes qui sont peut-être plus capables de comprendre leurs grands-parents? Est-ce qu'on perçoit déjà ça sur le terrain, cette différence-là que l'enseignement de la langue peut avoir?
Ah oui, ça, on le voit, ça. Puis même les Atikamekw qui étaient venus dans notre parole, ils disaient, ça parle de plus en plus algonquin ici. Ça parle même pas algonquin. Puis je vois du monde qui parle toujours la langue algonquine. C'était comme beau d'entendre ça, puis il y avait des aînés qui étaient là. T'sais, on travaille fort pour que faire revivre la langue algonquine.
Est-ce que je peux te raconter une petite anecdote de l'époque où je travaillais avec vous autres? Mes employés, j'étais directeur du développement des ressources humaines, puis mes employés parlaient souvent en Anishinaabe Mouin pour pas que je les comprenne. Puis les autres directeurs, qui n'étaient pas nécessairement Anishinaabe, me disaient « Ah ouais, les Algonquins, quand ils parlent entre eux autres en Algonquin, on comprend pas, je leur demande d'arrêter. » Puis moi, je leur disais tout le temps « Ben voyons donc, on travaille pour eux autres, t'sais, c'est bien la moindre des choses qu'ils puissent parler à leur langue. » Ben je te dis, à la fin, je comprenais qu'est-ce qu'ils disaient. Donc c'est important, c'est je pense que vous continuez ça, c'est tellement une belle richesse.
Ah oui, on va continuer, on va perpétuer, puis les enfants... aime beaucoup, et c'est la fierté d'être Anishinaabe. Hein. On travaille beaucoup, beaucoup là-dessus aussi, la fierté de pas... Parce qu'avant, les gens, là, il y avait comme honte à cause des journaux, à cause de tout ce qui arrivait au lac Simon, ils avaient peur de dire, moi, je suis Anishinaabe de la communauté du lac Simon. Mais maintenant, non. Mmh. Moi, je viens de lac Simon. Je suis Anishinaabe, puis c'est vraiment beau à voir.
Ben, je suis bien. C'est beau à voir, c'est beau à voir dans les journaux. Parlant des enfants, justement, une autre des richesses des Anishinaabe, vous avez décidé de faire en sorte que vous repreniez le contrôle sur les services de la protection de la jeunesse. Comment ça va, ce dossier-là?
Ah, ça va. Ben, ils sont en train. Ben, là, c'est la protection de la jeunesse, c'est encore comme centre jeunesse qui se prend, mais on est en train de travailler pour le prendre complètement. Ça va être au mois d'août. Mais, tu sais, les services sociaux, tout ça, on a déjà la prise en charge de ça. Puis, tu sais, nous autres, on va par. C'est pas par. Comment je te dirais ça, là? Mais, c'est pas à punir les parents, c'est vraiment les aider, les accompagner dans leurs difficultés. C'est pas juste comme cocher, là, t'as-tu fait ça. Non, mais c'est vraiment les accompagner. Les expliquer aussi, en gros, avec un Anishinaabe, quand il y a un Anishinaabe qui rentre dans le dossier, ils sont plus ouverts. Ouverts, parce qu'on a mis des personnes clés dans la communauté qui sont là pour accompagner les travailleurs sociaux à comment travailler avec nos gens. C'est comment gagner la confiance de nos gens. C'est ça. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont extraordinaires chez nous. Mais leur maison, là, tu vois que ils sont là, ils élèvent leurs enfants, puis ils sont là comme des personnes normales. Mais tu as une maison qui est habitable, mais qui n'a pas de nouveaux meubles, mettons, mais même que la personne, elle, est mal habillée. Les travailleurs sociaux, là, ils s'attendent des fois à ce qu'on soit, on les reçoit en cravate, là. Puis bien habillé. Puis on travaille tous les jours, du matin au soir. Il y a plein de mamans chez nous là, qui sont comme ça. Ils ont 6 enfants, 7 enfants. Des mamans qui donnent tout le service à leurs enfants, mais des fois, ils ont des difficultés, puis tu sais, les services sociaux, nous autres, on est là pour les accompagner, pas pour leur dire « t'es une mauvaise mère ». Non. T'es une bonne maman. Tu sais, de les valoriser dans leur travail, de maman ou de papa. Il y a les papas.
Puis les amener à... Puis les amener à avoir les compétences parentales des fois qu'ils pourraient aller chercher ou des choses comme ça. On voit que ça fonctionne bien chez les Atikamekw. C'est un modèle que je pense qui est à développer. Vous allez vous regrouper avec d'autres communautés pour faire ça, si j'ai bien compris.
Ben oui, parce que c'est un modèle qui est holistique. Et on va travailler avec les forces des parents et non les faiblesses. Parce qu'il faut travailler sur des forces. Oui, ils ont des faiblesses. Ils le savent, mais on va travailler avec leurs forces en même temps.
Bon, c'est bien. Hey, un dernier dossier que je voulais parler avec toi, Adrienne, c'était le MOZ. Qu'est-ce qu'on appelle l'orignal en français. Cet été, il y a eu la crise du MOZ où les Anishinaabe, vous avez décidé de dire « Hey, la chasse sportive, là, ça va faire, c'est notre garde-manger. Il faudrait faire attention à la ressource. » On a eu une certaine crise, des tensions cet été. Là, on dit qu'on est en négociation pour trouver des solutions. Est-ce que le dossier avance bien avec le gouvernement du Québec?
Oui, le dossier avance bien, mais on a rencontré hier l'équipe de Yann Lafrenière, puis on a eu une entente, une ébauche d'entente, mais c'est à retravailler. On a des négociateurs qui sont là présentement. Au 31 mars, on a une autre rencontre avec le ministre Lafrenière parce qu'il y a des choses, il y a des conditions qu'on n'aime pas, mais ils ont développé quelque chose au moins, je me suis dit, mais il y a des choses qu'il faut renégocier. Là. Mais ça avance bien. Ça avance bien, je te dirais. C'est quasiment presque. C'est quasiment fini. Il faut aussi. Que nos gestionnaires de territoire soient au courant de ce qui se passe, de ce qui va se passer dans le territoire. Parce qu'il y a beaucoup de familles dans les territoires. Il y a un gestionnaire qui peut avoir une centaine de personnes dans sa famille là, qui occupe le territoire.
Ouais, des chefs de clan qui ont des territoires à gérer pour les
Oui.
territoires de chasse, hein, c'est ça. C'est encore
Oui,
bien
c'est
présent.
ça.
Moi, je vais te lancer une idée, Adrienne, que j'avais lancée au moment de la crise, sur les ondes d'une autre station. Je me disais, c'est drôle, c'est bizarre que le parc, qu'est-ce qu'on appelle le parc La Vérendrye, votre territoire ancestral, que ce soit la CEPAC qui le gère, que ce soit la CEPAC qui ramasse les fonds pour l'argent, pour les droits de pêche, les droits de chasse, et ainsi de suite. Ça serait pas
C'est
quelque
dans
chose de
l'entente.
pertinent de faire en sorte.
Oui, c'est
Faire
dans
un,
l'entente.
faire un,
Ça a
faire en
été
sorte.
mis dans. Oui,
Ah oui,
on
c'est
a
dans
décidé
l'entente de faire
de
en sorte que vous
continuer.
puissiez gérer ça?
Oui, c'est dans l'entente
OK.
aussi. Nous autres, on a discuté à plein de choses là-dessus, là. Le ministre, j'espère que ça va aboutir à quelque part, là. Mais on espère bien le 31 mars, c'est demain.
C'est la signature de l'entente demain. Est-ce qu'on a demain le 31 mars, on est en préenregistrement, donc il se pourrait que vous ayez une partie de la gestion du parc La Vérendrye, si je comprends bien.
Oui, c'est ça. Ben là,
Oh,
on est
intéressant.
en discussion, on est en négociation, puis on avance là-dessus.
Bon, ben super. Donc, Adrienne Jérôme, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Ça fut très intéressant. Merci d'avoir participé à l'émission Kichimiigwetch. Et j'espère bien qu'on va pouvoir se reparler.
Oui, certainement.
Au revoir et bonne fin de journée.
Ouais, à toi aussi, bonne journée.
Le regard qui se perd vers l'horizon lointain. De splendeur et de beauté sur le chemin de l'aurore, les mystères ne me l'éteignent. Où tes menaces squattent, mais si sous tes biscards bichoux, tes stars me loisent. Sarasis kawasiuyan, kapontean menaskoa. Dépêche-toi, plaisisse, et ne que me tord. T'es soi pour soi, des mesta me l'ouetèrent. Sur le sommet des montagnes, contemple l'océan. Le vent murmure cette vérité en ce jour ensoleillé. Et le stade me l'éteint. Où tes menaces squattent, le sissou, tes biscarbichous. Sarasis kawasiuyan, kapontean menace quoi. Dépêche-toi, plaisisse, et ne que me tord. T'es un soi pour soi, n'aime ça.
Alexis, il y a encore pas mal de nouvelles qui nous intéressent cette semaine. On en a glané quelques-unes. Je vais les présenter. Tu vas nous les commenter?
Mm-hmm.
Écoute, la première nouvelle, c'est que mobilisé pour la survie culturelle de la communauté, le Conseil des Innus de Pessamit a dévoilé hier son projet d'aire protégée autochtone au Pigmoakan et son logo qui dit « Aujourd'hui, nous tendons la main aux intervenants régionaux et au gouvernement. Travaillons ensemble à la sauvegarde de notre culture et à la réconciliation de nos peuples. » C'était M. Jean-Marie Volant, que tu connais peut-être, qui a déclaré ça, le chef du Conseil des Innus de Pessamit. T'en penses quoi?
Ben moi, je pense que c'est un beau projet, mais est-ce qu'il y a la volonté politique de l'autre côté de faire en sorte que ça se réalise? Parce que des projets comme ça de réserve Innu ou de parc Innu, c'est pas quelque chose de nouveau. Si on prend des... est-ce que tu as déjà entendu Robert parler de l'approche commune?
Non, pas vraiment.
Bon, l'approche commune, ça, c'était les négociations qui existent avec les Innus pour les négociations territoriales. Puis on parle que cette approche commune-là, ça fait peut-être 20 ans, 25 ans, où on a des négociations entre les Innus qui ont été unis, moins unis. Là, on est en ce moment à 3 communautés qui se sont unies, si je me rappelle bien, pour justement négocier une espèce d'entente territoriale avec le gouvernement du Québec. Et ça se déroule depuis 20 ans. Puis si on reprend après ça d'autres nations comme les Atikamekw, encore là, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'ils négocient. Et il n'y a toujours pas de volonté politique de la part des gouvernements du Canada puis du Québec de faire en sorte qu'on arrive vraiment à des négociations de bonne foi puis qu'on arrive à quelque chose, un résultat tangible. Donc, cette volonté-là des Innus de vouloir faire en sorte d'avoir leur propre réserve naturelle avec le but de protéger le territoire, je salue ça, mais j'espère qu'on va enfin répondre positivement de la part du gouvernement pour qu'on puisse avoir quelque chose de tangible. Tu sais, les Wet'suwet'en, c'est aussi des négociations territoriales. Ils demandaient l'année passée à ce qu'on protège une petite partie du territoire. Puis il a fallu qu'il y ait une crise ferroviaire qui touche tout le Canada pour que le Canada et la Colombie-Britannique décident enfin de s'asseoir puis de négocier sérieusement. Donc ici, est-ce que le Québec puis le Canada sont prêts à négocier sérieusement? C'est la question que je me pose.
Oui, c'est pas certain. Ben, je te lis une autre nouvelle pour avoir tes commentaires. L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, en compagnie d'honorable François-Philippe Champagne, l'inévitable, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, ont annoncé l'appui du gouvernement du Canada au Conseil de la Nation Atikamekw, tu l'as évoqué. Le soutien fourni permettra au Conseil de la Nation Atikamekw de mettre en place des programmes de suivi de peines communautaires culturellement adaptées en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Tu veux-tu m'expliquer ça un peu?
Oui, bien, c'est que on le sait, les prisons du Canada sont remplies d'Autochtones quand on fait un simple pourcentage de la population. Donc, par rapport au pourcentage de la population qu'on a, notre présence est disproportionnée dans les systèmes de justice. C'est la même chose du côté des prisons pour femmes, puis dedans les jeunes délinquants, la justice pour jeunes délinquants aussi. Donc, on a essayé de corriger ça de toutes sortes de façons dans le système de judiciaire, avec des sentences plus adaptées, des rapports gladus. Mais bon, il reste que toutes ces façons de faire-là, c'est quand même, on reste dans un modèle très convenu, très colonial. Ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est cette volonté-là des Atikamekw de se prendre en main, puis d'avoir... d'autres façons qui sont propres à leur communauté. Je prends un peu l'exemple dans lequel je travaille. Je travaille en protection de la jeunesse. De leur côté, ils ont décidé d'avoir, comme on le voit ici dans cette nouvelle-là, des conseils de famille puis des conseils des sages pour orienter les mesures de protection qu'il va y avoir avec des familles qui veulent qui sont volontaires dans cette façon de faire-là. Donc, ici, on a quelque chose qui va s'adresser aux jeunes délinquants où, au lieu que ce soit la cour qui décide c'est quoi qui est la sentence la plus appropriée, bon, ben on va aller voir la famille, on va aller voir le conseil des sages, puis on va voir dans dans leur milieu. C'est quoi les causes? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le jeune va mieux se rétablir, va être plus, va avoir une meilleure volonté pour réparer? Parce que l'idée ici, dans la justice traditionnelle autochtone, dans les cercles de justice-là, puis dans les mesures de justice réparatrice, on est dans une optique de réparer plutôt que de se venger. Donc, c'est un peu ça qui va arriver, là, au lieu de dire, bon, ben, faut punir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'adolescent puisse se rétablir, puis qu'il puisse rétablir, réparer qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça va être des travaux communautaires? Est-ce que ça va être peut-être certains cours? Donc, on va avoir des peines qui vont être plus appropriées au milieu. Puis les études le montrent, j'ai pu regarder, il y a en général une meilleure compréhension des choses, puis on arrive à des taux de récidive plus bas quand on met de tels programmes en place. Donc je pense que c'est quelque chose de bien, puis on espère que cette ouverture-là va pouvoir se faire aussi à d'autres nations.
Mais à d'autres places, chez les Blancs en particulier, parce que c'est une attitude qui serait intéressante à développer également chez les Blancs.
Ben regarde, je peux te raconter un peu quelque chose par rapport à ça, où chez les Blancs ou chez les non-autochtones. Ici, à Montréal-Nord, ils ont décidé de s'inspirer justement de ce modèle-là. Le groupe communautaire Outstock, qui est un groupe qui défend les intérêts des habitants ici, ont parti une clinique juridique et aussi dans leur clinique, dans leur projet juridique, ils ont un projet comme ça de justice réparatrice où les personnes qui voudraient accepter comme les conséquences de leurs actes pourraient décider d'aller par ce chemin-là. Puis c'est carrément inspiré de ce qui se fait chez les Atikamekw et les Premières Nations. Donc, oui, c'est quelque chose qui peut s'exporter, qui est bon pour tout le monde. Puis c'est déjà ce qu'on essaie de faire ici à Montréal-Nord.
Alexis, il y a encore un rapport, le tout dernier qui vient de sortir, un rapport de santé qui dit que les Autochtones ont beaucoup plus de tendance à avoir des crises cardiaques, à avoir du diabète, une trop forte pression artérielle. T'en penses quoi? C'est réel dans le milieu autochtone, non?
Oui, on est dans des conséquences intergénérationnelles des différents traumas hystériques qu'on a vécu. En plus d'avoir aussi une génétique particulière qui fait en sorte que on a tendance à emmagasiner la graisse plus rapidement que d'autres pour survivre au mois d'hiver les plus durs. Ce qui fait qu'on devient plus gras, j'en suis un exemple, plus rapidement. Donc, ça fait en sorte qu'en plus de ça, particularité génétique-là, on a aussi les différents traumas intergénérationnels qui font en sorte qu'on a trouvé des fois peut-être des façons de répondre à ces traumas-là, peut-être des fois par la nourriture ou des choses comme ça, en plus d'avoir des modes d'alimentaire qui ont changé beaucoup comparé à qu'est-ce qu'on avait, à qu'est-ce qu'on était habitué traditionnellement. Tous ces facteurs-là font en sorte que c'est quelque chose qui nous amène à avoir plus de facteurs de risque. Pour le diabète, on fume plus pour répondre justement à ces traumas-là, donc ça nous amène à avoir une plus haute pression. C'est tous des facteurs qui vont faire en sorte qu'on est plus à risque.
Merci, Alexis.
Écoutez Coué Bonjour avec Robert Blondin et Alexis Wawanalwat.
Avec nous pour cette deuxième demi-heure, Sylvie Ambroise, vous êtes là?
Oui, Coué.
Journaliste, présentatrice de nouvelles maintenant.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ça fait-tu longtemps que ça vous tentait de faire ça?
Ah oui, ça fait vraiment longtemps. Par rapport à être journaliste, oui. Ça a été toujours un rêve de petite fille, je vous dirais, là. Je raconte toujours l'histoire avec mon père qui était chef. Pendant plusieurs années, c'était pendant que j'étais petite, donc je le voyais pas souvent. Mais on avait toujours rendez-vous le soir là pour regarder le téléjournal. Je m'assoyais sur ses genoux, puis on regardait, je comprenais rien, mais on regardait les journalistes défiler. Là, c'est là, je pense, que ça a pris racine, là, mais pour être journaliste, là.
Et pourquoi? La motivation de ça, c'était quoi?
La motivation, c'est moi, j'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup poser des questions. J'aime beaucoup savoir pourquoi les choses sont. C'est vraiment ça, ma motivation, là.
Les apprendre, c'est une chose, mais les communiquer à d'autres, c'est aussi un métier, c'est un beau métier. Ça vous attirait aussi, là?
Oui, ben oui, ça m'attirait. C'est partager ses connaissances. C'est le fun, là. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses.
Comment vous vous êtes préparée, Sylvie, pour faire ce métier?
Je me suis préparée. Ben, moi, je suis allée j'ai travaillé comme agente des communications pour mon conseil, ITUM. Ça, c'est une autre branche de la communication que je voulais essayer. Aussi, j'ai été à la radio avec la radio communautaire là chez moi, la CKAU. C'est là qu'on m'a formée. On m'a formé deux journalistes étaient là, puis ils m'ont formé professionnel là pour comment ramasser les histoires, comment les transmettre, quoi dire, les réponses pour avoir des réponses. J'ai été aussi longtemps au journal Innouvelle. Ça, c'est encore une autre branche. J'étais en marketing. Je vendais de la publicité pour le journal. Mais on m'a aussi appris à faire des articles, à écrire des articles quand on avait le temps. Fait que, c'est ça, je me suis préparée. Mon expérience est vraiment professionnelle.
Ben oui, c'est vraiment appris surtout à aller recueillir les nouvelles, l'analyser, la comprendre, etc. Quand on le fait aussi, vous avez fait de la radio, vous avez travaillé un petit peu la voix, la façon de faire, c'est important aussi, j'imagine.
Oui, ça, après, c'est arrivé après. C'est que moi, j'ai décidé de prendre un cours à l'université pour justement être capable de bien transmettre les parce que c'est toute la voix, hein, c'est vraiment toutes les muscles de la bouche puis tout là. Puis j'ai eu des comme un coaching là à l'université pour ça. Puis je fais qu'est-ce qu'ils me disent là, puis C'est comme ça que je me suis améliorée pendant l'animation.
Alexois Onaloa, t'as l'appareil, quoi, Sylvie? J'ai vu aussi que tu as travaillé au Festival Innu Nikamun. J'imagine que la culture, ça doit être quelque chose d'important pour toi en tant que journaliste?
Ah oui, la culture, c'est vraiment important pour moi. Regarde, moi, je suis ici là en pandémie. Je peux pas retourner chez moi parce que ma communauté est fermée. Je m'ennuie, mais vraiment beaucoup. Je m'ennuie aussi de parler la langue. Puis, tu parles de Innu Nikamun. qu'est-ce que je fais moi ici dans ma maison là le soir, je chante les chansons des chanteurs autochtones là, Innu, là.
Ben, j'ai vu quand même pas mal de tes reportages. Tu parles quand même Innu avec des membres de ta communauté ou des membres de ta nation pour pour les interviewer.
Oui. Oui, oui, oui. C'est important de donner un choix pour la langue. Mm-hmm. Admettons, là, je parle à quelqu'un, bon, OK. Moi, là, quand je suis sortie de ma communauté pour venir déménager à Montréal, ben j'ai eu de la misère un bon 2 semaines à parler le français. Je cherchais mes mots, j'avais de la misère à rattraper parce que moi je travaille et je vivais seulement en Innu. Puis moi j'aime ça leur donner le choix à ceux que je peux comprendre pour l'Innu. Est-ce que tu veux que ce soit en Innu ou ben en français, tu sais? Comme ça, moi, je vais pouvoir traduire, là, mettre des sous-titres là, dans mes reportages pour ça. Fait que souvent, les gens, ils veulent ça. Là. Fait que moi, si c'est possible, ben, c'est possible, je vais le faire.
Sylvie, c'est quoi le plus grand défi dans ce métier-là, de présenter des nouvelles, recueillir et les présenter, les nouvelles? C'est quoi pour vous le défi?
Le défi?
Y a-t-il quelque chose de plus difficile que d'autres à faire, par exemple, là-dedans?
Ben là, après, on dirait que après Joyce Echaquan, ben c'est positif là. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu autochtone présentement. Fait que moi, je ressens que je manque beaucoup de temps. J'aimerais ça parler de tout, mais je peux pas, j'ai pas le temps. L'émission dure 30 minutes. Tu sais, c'est ça là que moi que je trouve difficile là, par rapport à ça.
Sylvie, quand vous avez un choix à faire parmi plusieurs nouvelles parce qu'ils sont nombreux, sont nombreuses, c'est quoi votre critère de choix? Qu'est-ce que vous voulez privilégier davantage à communiquer?
Quelque chose qu'on n'a pas entendu parler. C'est peut-être quelque chose que j'ai pas entendu parler dans les grands médias, mettons là. C'est ça que je fais comme que je regarde en premier. Puis, mais c'est rendu plus facile, là, peut-être à cause qu'on est en pandémie puis qu'on est capable de rejoindre les gens par Internet. Puis la difficulté aussi, c'est nous autres, on est un média visuel. On ne peut pas aller dans les communautés. Ça a été très difficile. Tu sais, de demander à des gens dans la communauté: est-ce que tu peux aller me filmer ce bâtiment? Tu sais, on a trouvé plein de solutions pour être capable de raconter quand même les nouvelles là, qu'on produit.
Sylvie, êtes-vous en mesure de nous faire la différence? Là, bon, moi, je suis le même métier que vous, mais du côté des Blancs, j'ai fait ça toute ma vie. Vous le faites maintenant avec les Autochtones. Est-ce que l'intérêt des Autochtones, le genre de nouvelles qu'ils aiment entendre, est-ce que c'est différent ce que nous, les Blancs, on aime entendre?
Sérieusement, je pense pas. Je pense que c'est qu'ils sont habitués à écouter les TVA puis tu sais, Radio-Canada, tout ça. Fait que je pense pas qu'il y ait une différence.
Sylvie, est-ce que tu penses que dans les grands médias, on va faire une meilleure place pour les journalistes autochtones? Dans le fond, est-ce qu'on va te voir éventuellement à TVA ou à Radio-Canada ou peut-être à un autre poste si jamais on te le ferait? Parce que c'est peut-être important qu'on ait notre voix là aussi.
Oui, c'est sûr. Mais moi, j'aime beaucoup APTN. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment, je pense que je vais rester là longtemps. Mais oui, moi, en parallèle, je dis c'est quoi le journalisme? Je fais de la publicité pour ça, pour que les Autochtones aillent à l'école pour ça, pour qu'il y ait une représentation dans les autres médias, là, tu sais. C'est intéressant, là. C'est ça que je fais. Moi, je fais de la publicité, là. C'est quand je vois quelqu'un qui sait pas, oh ben, je le fais peut-être sur mon mur aussi de Facebook. Je manque aucune affaire pour faire de la publicité pour ça.
Est-ce que votre famille, vos amis sont particulièrement contents de vous voir arriver à ce poste de nouvelliste?
Oui, ben moi, ma tante, elle me regarde beaucoup. Mon oncle aussi. Puis elle se permet de faire des commentaires. Puis j'aime ça, tu sais, c'est le fun. J'aime ça sentir qu'on m'écoute, tu sais, puis qu'on me critique aussi. Qu'on fasse des commentaires, ça c'est moi j'écoute tout qu'est-ce qu'on me dit là.
Ça prouve juste qu'on est tous pareils parce que nous aussi, Sylvie, on aime la même chose.
Excellent.
Chicken Smithon, Sylvie, puis on peut te regarder sur les ondes d'APTN au bulletin de nouvelles nationales en français.
Oui, les lundis à 18h30.
OK.
Jusqu'à maintenant. Yamet.
Encore une fois, au nom des miens, je reviens sur le tempo. Tant pis si t'aimes pas, moi je les aime trop. Toujours le même combat, avec des mots je débat. Contre leur politique de merde et leur secret d'état. Les couteaux volent bas, chez moi pour mourir, les oiseaux ne se cachent pas. Non, non, y'a plus d'un peuple qui crie à l'aide. Québec, Canada, sous un régime d'apartheid. Nani Goudin, Kita Sosonan, Ginegyoji Tuan, Wani Higan, Misawash Nipaguyan, Taguanayam Yewen, Kichina Kachi Higuan. Tu l'ignores, ça ne veut pas dire que t'es ignorant. À l'école, on t'apprend qu'ils ont découvert un continent. La vérité est parfois dure à entendre, c'est pour ça qu'ils la cachent depuis plus de 150 ans. J'en ai marre des mensonges, marre d'hypocrisie, j'en ai marre des taches de sang sur le drapeau de mon pays. Sous la tutelle gouvernementale, on ne vit pas dans le même monde. Des réserves indiennes, pauvres comme le tiers-monde, on parle de l'Holocauste, du Rwanda, des millions de morts au Congo. En Amérique du Nord, c'est un génocide au compte-gouttes. Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens instruits. Nani Goudin, Kita Sosonan, Ginegyoji Tuan, Wani Higan, Misawash Nipaguyan, Taguanayam Yewen, Kichina Kachi Higuan. Au nom des enfants vendus et déracinés, au nom des femmes disparues et assassinées, des femmes ligaturées à leur insu, un génocide bien planifié et ça continue. Enfants des Britanniques au sens de la loi sur les Indiens d'un pays sans foi ni loi. Pour eux, nous ne sommes qu'un sujet, des prisonniers politiques au nom de sa majesté. 69 et leur putain de livre blanc, ou plutôt comment se laver les mains avec le sang des innocents. Ils ont rêvé d'une Amérique blanche, des assassins imprimés sur leurs billets de banque. L'interdiction de parler nos langues, c'est un génocide. Tuer l'Indien à l'intérieur de l'être humain, c'est un génocide. Voler et vendre des enfants, c'est un génocide. Les femmes autochtones disparues et assassinées, c'est un génocide. La Constitution canadienne est un génocide. Nani Goudin, Kita Sosonan, Ginegyoji Tuan, Wani Higan, Misawash Nipaguyan, Taguanayam Yewen, Kichina Kachi Higuan. Nani Goudin, Kita Sosonan, Ginegyoji Tuan, Wani Higan, Misawash Nipaguyan, Taguanayam Yewen, Kichina Kachi Higuan.
C'est la chanson « Génocide » de Samian. Quoi, Samian?
Quoi?
Ça va?
Ça va bien,
hey, je vais te dire sincèrement, ouais, ça va, mais ta chanson, je la trouve super émotive. Tu l'as sortie comme à une période qui était très, très émotive pour nous autres. Pourquoi tu as sorti cette chanson-là quand ton disque n'est pas encore sorti? Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Ben, c'était... écoute, des fois, les circonstances sont plus fortes qu'une sortie d'album ou quoi que ce soit. T'sais, on était vraiment, à l'automne dernier, dans une situation choquante, je pense, pour beaucoup au Québec et les Premières Nations. Puis moi, ce qui me frustrait beaucoup, c'était d'entendre un gouvernement jouer avec les mots. D'essayer en tout cas juste de pas être capable de nommer certaines choses et je me suis dit écoute, moi je travaillais sur cette chanson là et elle avait pas de titre encore, cette chanson là et quand j'ai regardé l'actualité aller, j'étais comme écoute, je pense qu'il faut nommer les choses telles qu'elles le sont et j'ai donné le titre de génocide et on a tout mis en branle pour faire le vidéoclip, pour sortir la chanson le plus rapidement possible et c'était ça, c'est juste une façon de dire, écoutez, vous n'êtes pas capable de nommer certaines choses, ben disons les choses telles qu'elles le sont, en fait.
Bon, en tout cas, je vais te dire, Miigwetch, pour ta chanson, parce que moi, bien qu'elle m'a fait pleurer un peu, elle m'a fait aussi beaucoup de bien que d'entendre un artiste parler franchement de génocide, parce que, comme commentateur, j'en parle souvent, mais c'est un terme qui fait peur.
Ben on n'ose pas. Je pense que beaucoup de gens, on parle de génocide culturel, on parle de la loi sur les Indiens, mais quand on regarde en profondeur, quand on se met à étudier ces choses-là, et puis, tu sais, à la base, tout ça a été créé pour, créer un génocide, mais sur du court terme. C'était, écoute, on va éliminer les Premières Nations avec la loi sur les Indiens en 10 ans, 15 ans peut-être, puis on est rendu en 2021, puis wow, on est encore là. Donc, ça reste, au sens de la loi sur les Indiens, ça reste un problème. Donc, c'est comme si on perdure un génocide sur plus de 150 ans. Donc, c'est quand même ça, le constat, finalement. Et comment l'expliquer? Comment le dire? Je pense qu'il y a plusieurs façons. Je pense que tout le monde trouve des façons politiquement correctes de dire les choses, mais à un moment donné aussi, il faut, surtout au Québec, où on a un gouvernement qui refuse de parler de racisme systémique et de vouloir changer les choses dans le bon sens, ben des fois, il faut prendre d'autres moyens pour se faire entendre.
Samiane, j'ai regardé aussi ce clip-là avec beaucoup d'intérêt. C'est très beau. Je laisse le contenu, évidemment, à Alexis là-dessus, là, au niveau des Autochtones. Mais c'est magnifique. Tu es le seul dans le clip qui n'est pas habillé avec des costumes traditionnels ou patrimoniaux. Pourquoi toi, t'es moderne et que les autres sont en costume?
Ben, c'est ce qui représente le mieux ce que je fais, ce que je suis. C'est des régalias que Jeffrey et Miigis portent. Jeffrey et Miigis s'habillent pas de même à tous les jours non plus. Là. Je veux dire, ils vont porter leur régalias quand vient le temps d'avoir des powwows. C'est très culturel, donc ils sont repartis en jeans puis en manteau de cuir. Là, je veux dire. Mais pour moi, ça reste super important de montrer cette beauté de notre culture. Moi, j'aimais beaucoup le clash du vieux béton dans une vieille usine abandonnée.
Ah, c'est très beau.
Et ouais, tu sais, avec le feu, de jouer avec ces éléments-là et leurs régalia, ils sont magnifiques. Et puis, écoutez, moi j'ai vraiment le côté visuel était tellement important pour venir appuyer ce vidéoclip-là. Et Francis DiSalvio, avec qui mon co-réalisateur et coproducteur avec qui je travaille, ben écoute, on tourne le prochain mardi et puis on va en mettre d'autres régalia dans nos...
mais en général, les clips que tu fais sont assez magnifiques au niveau visuel. Même quand on regarde Blanc de mémoire ou Chinanou, c'est magnifique comme visuellement. C'est toujours important pour toi, cet aspect-là. Mais il y a un autre aspect dont je veux te parler. Moi, j'ai l'âge que j'ai. Je suis venu au monde en 1942, c'est-à-dire juste après que Jacques Cartier est arrivé à Gaspé, à peu près, là. Et c'est une époque où on n'avait pas dans nos gènes le rap. Tu sais, on n'a pas ce gène-là. Et la plupart du temps, quand à mon âge de vieillard, quand j'écoute du rap, je comprends pas grand-chose. Mais avec toi, je comprends tout. Et ça, c'est une décision. C'est quelque chose de volontaire. Tu veux qu'on comprenne bien. C'est pas juste un show rythmique, musical, mais également un message livresque de ce que tu as à dire. Ça, c'est mauditement important.
Et c'est voulu, c'est très calculé, ça fait 15 ans que j'ai sorti mon premier album, je sors mon cinquième très bientôt, et c'est un exercice que je fais à chaque fois par rapport à la diction, Et non, c'est vraiment important. Et c'est des beaux commentaires que j'avais justement dans mes débuts, il y a une quinzaine d'années, ou même en concert. Je pense que c'est super important parce que beaucoup, bon, des fois, on associe le rap et on se dit, écoutez, on comprend pas les paroles, ça va trop vite. Il y a beaucoup d'MC aussi qui utilisent les rimes multisyllabiques. C'est vraiment de jouer avec le flow et ces choses-là. Mais je pense que j'aime être posé, d'appuyer les mots et puis qu'on les comprenne bien parce qu'il y a réellement un sens et un vécu derrière tout ça qui... Il y a une histoire, je pense, que ça doit être raconté.
Tout à fait. Là, tu fondes ta propre étiquette. Hein, qui, comment ça s'appelle? Nigamo
Music. Ouais.
Qui veut dire chanter, c'est ça?
Oui, Nigamo veut dire chanter.
Et qu'est-ce qui t'a pris de fonder une maison? Tu avais passé l'ouvrage comme ça?
j'avoue que je le réalise en ce moment même parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. Écoutez, je l'ai fait pour mon prochain album, parce que mon prochain album est particulier. Je travaille sur un disque entièrement en algonquin. Et ça s'est jamais fait. Donc, est-ce qu'on peut présenter ça à un label? Est-ce qu'on peut dire, écoutez, je vous présente ce projet-là, mais je me suis dit, écoute, je vais partir mon label, je vais produire cet album-là. Et pour moi, on avait terminé le visuel, par rapport au label, par rapport à tout ça, les enregistrements, bon, tout est en bonne et due forme. Et j'ai demandé à Francis DiSalvio, justement, qui fait le clip Génocide, on tourne ensemble et on part notre propre compagnie audiovisuelle. Puis là, j'ai dit, écoute, peux-tu me faire une bannière Facebook ou YouTube, tu sais, que je puisse utiliser pour promouvoir l'album et le label. Et il me l'a fait, je l'ai posté. Et je m'attendais pas à ça, en fait. Là, je me retrouve avec une dizaine de démos à écouter. Et puis, c'est ça, ça a eu
plus. C'est ça que j'allais te demander, Samian.
Ouais.
Est-ce que tu as la volonté de promouvoir des artistes Anishinaabe, des artistes des Premières Nations, des artistes autochtones en général? Est-ce que c'était un peu ça le but en lançant ta maison de disque?
Au départ, c'était vraiment pour m'autoproduire. C'était vraiment pour mon projet d'album. Puis ça a fini en label, ça a fini. Et oui, je pense que la porte est ouverte à tous ceux qui veulent... qui veulent produire un album, qui veulent produire que ce soit un single, un EP, je veux dire, on était quand même à l'ère du numérique, donc on s'adapte, mais j'ai envie d'expliquer aux jeunes artistes autochtones c'est quoi les fondements même et c'est quoi les bases même de la production d'un disque. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à mes dépens au fil des années, après 15 ans dans cette industrie-là, et puis j'ai envie que les plus jeunes comprennent c'est quoi un contrat de disque, c'est quoi, ça implique quoi la production d'un disque. Donc il y a vraiment, il y a un côté peut-être mentorat aussi, de donner au suivant, de faire découvrir aussi des jeunes talents autochtones qu'on n'entend pas parler, puis... Ouais, je pense qu'il va avoir ce volet-là, évidemment, mais à la base, c'était vraiment pour mon projet d'album, mais ça a eu un impact plus grand que je pensais.
Est-ce que tu es conscient, Samian, que tu es devenu un modèle, j'oserais jamais employer le mot idole, je trouve ça effrayant, mais un modèle pour les jeunes autochtones qui sont intéressés par la musique?
Genre, ben, tu sais, ça fait 9 ans que je fais de la tournée de conférences dans les écoles, parce que il y a beaucoup de mes textes qui sont retrouvés dans les manuels scolaires, tu sais, secondaire 1, secondaire 5, dans les cégeps, dans les universités. Et oui, tu sais, à un moment donné, tu réalises la responsabilité. Et ça devient vraiment important. Et les jeunes que je rencontre étaient même pas nés quand j'ai commencé à faire de la musique. Donc, il y en a que je rencontre qui s'appellent Samian. Tu sais, c'est ça, moi, qui me touche à chaque fois, c'est de voir l'impact que ça a pu avoir sur leurs parents et ces enfants-là que je rencontre aujourd'hui. Et oui, finalement, il y en a qui ont grandi avec cette musique-là, il y en a qui s'accrochent à ça, mais de prendre ça pour acquis, c'est moi, je vais être honnête avec vous autres, des fois, ça m'empêche de dormir, parce que il y a un jeune de secondaire 4 à un moment donné qui vient me faire signer son manuel d'histoire, tu sais, puis il vient me voir, il me dit, hey, notre examen de fin d'année était sur toi, et tu pourrais-tu signer mon manuel? Puis là, je vois ma face, puis avec un texte, puis à gauche, il y a Barack Obama avec un petit discours, et à droite, il y a Martin Luther King avec un petit discours dans un manuel d'école. Donc, tu sais, tu réalises que ça a dépassé même la musique. Et c'est là où c'est là que tu vois la responsabilité, finalement, et l'impact que ça a pu avoir. Et c'est hallucinant. C'est, ouais.
Dans tes textes, Samian, tu dénonces avec justesse, évidemment, les injustices faites aux Premières Nations. Est-ce que tu es préoccupé aussi d'établir des ponts en avant, plus tard, maintenant, à l'avenir, des ponts entre Blancs et Autochtones?
Ben, c'est la base même de ma démarche. Du jour 1 où j'ai commencé à faire de la musique, je pense que la collaboration avec le Colocas au départ, qui a été le premier extrait qu'on a sorti il y a 15 ans, avec la paix des braves, là, ça, c'était ça le but, c'était d'incarner un pont. Moi, je suis métisse et il y a tellement eu d'histoires enfant où est-ce que les jeunes me tapaient dessus sur la réserve parce que pour eux, j'étais un blanc, puis quand j'arrivais en ville, on me tapait dessus parce que j'étais un Amérindien, puis c'était vraiment comme je suis qui finalement. Puis je pense qu'à un moment donné, tu répares toutes ces miettes-là qui se sont brisées, puis c'est d'en bâtir un pont, puis de l'incarner surtout. Fait que moi, depuis 15 ans, faire de la tournée, faire des concerts, puis de voir qu'il y a autant d'Autochtones que de non-Autochtones dans une salle, un soir de spectacle, ça pour moi, à chaque fois, j'ai l'impression de me dire, écoute, c'est mission accomplie. T'sais.
Ça te tenterait-tu, en terminant, de nous parler un peu de Bootlegger, du cinéma?
Comme acteur, j'ai vraiment un privilège de tourner un film par année. Puis l'année dernière, on a tourné Bootlegger et L'Inhumain aussi, qui est sur la légende du Wendigo, qui est vraiment un film assez buzzant. Là. Ça a été le fun à faire. Ça a été un premier rôle où est-ce que ça demandait énormément, où j'ai dû être dans chacune des scènes du film, mais vraiment là, d'avoir travaillé avec Jason, Niche Media et toute l'équipe. C'est deux films qui vont prendre l'affiche, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y en a un qui va prendre l'affiche à la fin de l'année ou à l'automne 2021, et je pense au printemps 2022 pour L'Inhumain. Donc,
Samian, merci beaucoup de prendre la place que tu mérites de toute façon.
Merci à vous autres, c'est vraiment un
plaisir. Kichimigwech, Samian.
Kichimigwech, à très bientôt, les amis.
L'émission s'achève ainsi. Alexis, Louis Caron s'est occupé encore une fois de la coordination, Claire Guérin de la recherche, Maurice Boulduc est à la régie. Alexis Wawanolat avec nous, Robert Blondin ici. On se retrouve la semaine prochaine, Alexis.
Ouais, à la semaine prochaine. Allez, Annie, merci beaucoup à tout le monde.